ces séances, qui commencent par une certaine catastrophe pour moi, puisque mon ordinateur, comme je l'ai dit tout à l'heure, mon ordinateur ne s'est pas allumé ce matin, si bien que je n'ai pas pu imprimer le texte de ma conférence que je voulais vous présenter maintenant. Donc, je me suis quand même décidée à venir et donc je vous prie de m'excuser d'avance pour la difficulté les difficultés auxquelles je me suis confrontée et qui vont apparaître, j'imagine, au cours de l'exposé. Le sujet que j'avais choisi, disons, d'aborder la question de la normativité à travers un concept que John Dewey a souvent utilisé, d'ailleurs en symbiose avec un assez grand nombre d'autres chercheurs de son époque, à savoir le concept de contrôle social. Contrôle social, c'est un mot qu'on trouve fréquemment dans son œuvre et qui, par contre, disons, supplée avantageusement à l'idée ou à la notion de norme, qui par contre est un terme quasiment absent, totalement absent, dans l'œuvre de Dewey. On rencontre des termes proches, celui de règle, celui de valeur, une insistance très forte est mise sur l'analyse des rapports entre les moyens et les fins. Et finalement, le concept qui est généralement mobilisé pour parler des relations des individus à leur propre pratique, pour parler des relations entre les individus formant de petites sociétés, ou pour parler des relations entre des masses d'individus formant une grande société, c'est le terme de régulation, qu'on traduirait par réglementation, mais qui n'aurait pas exactement le même sens. La régulation est l'ensemble des procédés que les acteurs inventent pour sécuriser les conséquences de leurs activités conjointes lorsque ces conséquences sont bénéfiques et pour au contraire prohiber les conséquences de leurs activités conjointes lorsque ces conséquences sont négatives ou peu appréciables. Et ce qui est intéressant, avant de rentrer un petit peu dans le détail de cette notion de contrôle social, c'est de remarquer que son invention, en quelque sorte, dans la littérature américaine notamment, et surtout en sociologie et en philosophie, surtout chez les sociologues proches de George Herbert Mead et de John Dewey et de Peirce dans une certaine mesure, cette invention, disons, ou cette fixation du vocabulaire est contemporaine d'un constat, celui de la désorganisation complète ou quasi complète de la société moderne, de la société industrielle, si on peut reprendre l'expression de Raymond Aron. Cette désorganisation est liée à son ensemble de changements sociaux, un terme aussi, une expression qui va trouver sa pleine expansion à cette époque, est liée donc à des changements sociaux qui ne sont pas passés sous contrôle et qui ne sont pas placés sous contrôle parce que aucune des valeurs traditionnelles, aucune des instrumentalités d'action commune, aucune règle précise qui est encastrée en quelque sorte dans les habitudes, aucune coutume ne parvient à s'adapter au nouvel état de cette société désorganisée. Donc la désorganisation, en fait, on peut le... Excusez-moi. Bon, on peut aborder la désorganisation, cette désorganisation, disons, de deux manières. La première manière, c'est de repérer, comme un grand nombre d'auteurs l'ont fait, la disparition de ce qu'on a appelé les relations en face à face. Les relations en face à face ont ceci de particulier qu'elles produisent des conséquences qui sont familières, qui sont conformes aux attentes des gens engagés dans des actions communes, et qui par ailleurs, enfin les relations face à face ont aussi cette, ont été réputées, par exemple par un auteur qui s'appelle Cooley, étaient réputées procurer une satisfaction des intéressés qui trouvaient dans les finalités de leurs activités quelque chose de pleinement épanouissant ou quelque chose qui était en accord avec, avec leurs attentes. Donc la disparition des relations en face à face est un fait qui va être largement commenté dans les années 1890-1930, disparition au profit de ce que Graham Wallace le premier appelait la grande société. Et cette grande société, alors ce serait très long d'en décrire les différents éléments ou constituants, mais la grande société, surtout, c'est en particulier l'élément que retient John Dewey, cette grande société est marquée par le fait que, au lieu d'avoir affaire directement les uns aux autres, les individus ont désormais affaire à ce que James avait appelé des bigness, c'est-à-dire à des organisations impersonnelles qui, servent d'intermédiaires à leurs relations et qui, par ailleurs, se trouvent dotées d'une logique et d'un ensemble et expriment ou font peser un ensemble de contraintes qui s'originent dans leur structure même. Alors les termes utilisés sont celui de machinerie, machinerie qui déborde largement le cadre de l'industrie. Parmi ces grandes organisations impersonnelles, on peut citer évidemment la grande industrie, le grand marché, et puis aussi le grand gouvernement. Enfin, ce sont des termes empruntés, le big government, empruntés à William James, qui parle de l'ère donc des bigness. Etc. etc. Donc ce qui caractérise cette grande société est le fait que les relations en fait donc ne sont plus directes mais qu'elles sont médiées par des instances qui leur impriment une direction dont les acteurs, qu'il s'agisse d'ouvriers, qu'il s'agisse de consommateurs, qu'il s'agisse d'usagers du train, etc., dont les consommateurs n'ont quasiment aucune idée. Les usagers deviennent en quelque sorte des moyens, enfin c'est des analyses qu'on trouve par exemple chez Wallace, les usagers deviennent en quelque sorte les moyens de la continuation de l'existence de ces machineries. En revanche, ils n'en sont pas les fins. Il provient de cette situation, une rupture entre la vie morale d'un côté et la vie scientifique de l'autre, entre les valeurs qui restent celles d'un autre âge en quelque sorte, les nouvelles conditions de la grande société. Alors l'opposition entre société et communauté telle qu'elle a pu être formulée par Tonis, par exemple, est largement critiquée. Elle semble impropre à définir l'ensemble des processus en jeu. Mais cela dit, cette opposition va faire l'objet d'un assez grand nombre de reprises. La désorganisation sociale, je vous laisse, peut être, comme je l'avais indiqué, abordée d'une autre manière, que j'ai un petit peu annoncée, et c'est celle qui est la plus présente chez John Dewey. Il est clair qu'il y a effectivement disparition, évanescence des modes de vie traditionnels. Il est clair qu'il y a, apparition de ce que John Dewey va appeler l'individu perdu, c'est-à-dire cet individu qui... l'individu perdu apparaît dans un texte très intéressant qui n'a jamais été traduit en français, d'ailleurs, qui s'appelle « Individualisme old and new ». Et donc l'individu perdu est cette figure d'exclusion pour une part, d'aliénation pour une autre part, mais surtout cette figure de celui dont les buts, dont les fins, dont les visées ne trouvent plus dans la situation concrète dont il est le contemporain les moindres moyens de les atteindre. Donc l'individu perdu est quelqu'un qui est polarisé, en quelque sorte, sectionné entre d'un côté ses attachements de type moraux ou normatifs, qui est qui tente d'organiser sa vie suivant des valeurs auxquelles il est attaché du fait du passé, de son éducation et des traditions auxquelles il appartient, voire des communautés auxquelles il est lié. Mais il se trouve que ces valeurs deviennent d'une certaine façon suspendues en l'air, puisque les moyens d'atteindre les fins correspondant à ces valeurs font largement défaut. On peut noter que ce problème, cette disparité entre les finalités que les individus se proposent et les moyens réellement disponibles pour les atteindre, va aussi alimenter la littérature anthropologique, notamment celle de Boas et celle de Sapir à l'époque. Cet individu perdu, tel qu'il est nommé par Dewey, deviendra dans une certaine mesure un point de comparaison ou en tout cas un point d'analogie destiné à organiser l'observation des sociétés dites primitives, puisque précisément une société primitive est une société d'abord qui n'est pas primitive, mais surtout c'est une société dans laquelle à l'heure où les observations sont menées, dans laquelle la conciliation entre les moyens et les fins est assurée, la continuité entre les ressources ou les conditions d'usage, enfin les conditions d'action et les buts proposés à l'action sont, cette connexion est bel et bien assurée. Il y a des textes, par exemple, de Sapir, il y en a un qui s'appelle, qui est très aussi intéressant du point de vue de la norme, ça serait un autre, mais qui met justement l'accent sur la différence entre une vraie, dit-il, une vraie culture et une fausse culture. Et une fausse culture étant précisément une culture qui fait naître chez des individus des buts sans leur procurer en même temps les moyens de les atteindre, ce qui est exactement la situation donc de cet individu perdu dont parle John Dewey. Chez Dewey, la désorganisation sociale ne s'opère pourtant pas dans un vacuum de valeurs. Le problème qu'il va identifier et qui sert aussi un petit peu de fil conducteur à sa rédaction du public et ses problèmes, c'est que justement la grande société ou la société moderne est dominée par des valeurs qui ont pu être progressistes ou révolutionnaires, voire libératrices dans le passé, mais qui sont celles-là même qui aujourd'hui produisent un état d'exclusion, produisent une perte de contrôle de la part des individus sur les conditions de leur propre vie. Et ces valeurs sont notamment À l'époque, là, on est en 1927, ces valeurs sont celles qui sont attenantes au libéralisme. Le libéralisme étant conçu ici comme laisser-faire, et ce laisser-faire libéralisme étant fondé sur une normativité, disons, ancrée dans les droits naturels, sur l'idée que la liberté est une propriété inhérente à l'être humain, sur l'idée, là je fais une liste un peu schématique, sur l'idée que l'individu existe préalablement aux associations dans lesquelles il entre, sur l'idée que l'État doit respecter l'individu et non contribuer à le créer, sur l'idée enfin que l'individu dispose d'une rationalité et d'une autonomie que les institutions doivent encourager et sur lesquelles elles doivent empiéter le moins possible, sauf dans les cas justement où les individus font manifestement la preuve qu'ils ne possèdent pas cette rationalité ou qu'ils n'œuvrent pas, leur comportement individuel ne se convertit pas en bénéfice social, auquel cas il faut les réprimander et protéger la sphère publique de cette façon. Donc finalement, le libéralisme est défini, justement, le libéralisme est ici, dans ce texte de Dewey, le libéralisme est défini comme une idéologie, c'est-à-dire une idée qui marche toute seule, une idée dont la pleine réalisation se fait au mépris, en quelque sorte, des conditions réelles de libération, puisqu'on doit parler plutôt de libération que de liberté, au mépris des conditions concrètes, objectives, réellement existantes, des conditions d'une liberté pour tous. En ce sens, la grande société n'est pas caractérisée par une disparition de toute forme d'ordonnancement, mais l'ordonnancement mécanisé en quelque sorte, qui est la conséquence de l'idéologie libéraliste, est pleinement active du fait même du caractère idéologique des valeurs qui contribuent à le fonder et qui continuent surtout à le légitimer. Et donc on voit que chez Dewey, la question du contrôle social va nécessairement être posée comme dans les termes d'une correction de cette idéologie libérale, d'une correction du libéralisme, ce qui implique donc une rupture avec un certain nombre de valeurs ou de règles qui étaient inhérentes aux définitions historiques du libéralisme depuis, John Locke. Donc le contrôle social... J'ai peur de... Donc le contrôle social chez John Dewey apparaît sous deux formes principales. Donc là j'en viens au public et ses problèmes. Donc le contrôle social est d'abord un phénomène d'auto-régulation des groupes, un phénomène d'auto-ajustement, d'ajustement réciproque entre les différents individus formant un groupe. Développer, alors j'annonce quand même la distinction utile ici, il y a donc, on peut considérer les groupes réglementant par eux-mêmes, indépendamment d'une instance de contrôle extérieur, on peut les considérer, ces groupes, comme des groupes primaires ou des groupes, on pourrait dire privés en fait. Et en revanche, il faudra distinguer de ces groupes ceux qui sont constitués par, ceux qui forment un public, c'est-à-dire, je l'expliquerai après, ceux qui sont constitués par le fait qu'ils se ressentent, pas tous de la même manière, mais en tout cas que tous se ressentent gravement des conséquences d'activités qui sont menées par d'autres qu'eux-mêmes. Et ce type d'association est ce que John Dewey va appeler un public. Bien, donc les groupes primaires sont abordés dans les termes d'une association. Comme je l'ai signalé, John Dewey est un critique de l'individualisme qu'il accuse d'un certain nombre d'erreurs qui sont à la fois métaphysiques, logiques, morales et existentielles. L'individualisme, je dirais même existentiellement ou socialement, l'individualisme est une idée qui a pu avoir une pertinence, qui a pu avoir une effectivité, mais en tout cas qui comme les communautariens actuels d'ailleurs l'ont aussi largement y ont insisté, est une aberration au plan anthropologique. Ce qui importe ici, c'est que toute chose, en quelque sorte, tout individu, de même que tout être dans l'univers, agit en connexion avec d'autres êtres. C'est-à-dire que tout individu agit en rapport avec d'autres individus, ce qui est quelque chose que George Herbert Mead, par exemple, aussi a largement développé, qui était un élève de Dewey. À partir du moment où des individus ont des actions conjointes et qu'ils ont la conscience des conséquences qu'ils produisent, alors ils peuvent, ils peuvent faire des plans, en quelque sorte, ou décider ensemble de s'intéresser à la connexion qui les relie, c'est-à-dire d'assurer les activités dont les conséquences sont favorables et au contraire d'éviter les activités conjointes dont les conséquences sont soit ruinantes pour les individus qui composent l'association, soit destructrices de l'association elle-même. Ce qui est important dans ce cadre, c'est que le mécanisme d'autorégulation suppose que les acteurs, en quelque sorte, se donnent des règles, c'est-à-dire qu'ils vivent la règle comme une condition, soit qu'ils la créent, soit qu'ils l'instituent, et ça sera surtout très important au niveau des publics, soit qu'ils créent la règle de leur vivre ensemble, soit en tout cas qu'ils la suivent, et qu'ils la suivent de telle sorte que les interactions entre eux soient suivies des conséquences qui sont prévues par le respect, en quelque sorte, de la règle. Mais ce qui est intéressant, par contre, si on compare ces règles comme des règles de jeu, si on les compare à des normes, c'est que ces règles ne sont pas des contraintes. Ces règles, en ce qui concerne les interactions naturelles, les interactions qui assurent un vivre ensemble, qui assurent d'avoir des projets communs, qui assurent d'ajuster son activité à celle de l'autre, la grande différence, c'est que ces règles sont des conditions même de la situation complète dans laquelle moi, en tant que participant, je me trouve pris. C'est-à-dire que respecter la règle, ça n'est pas obéir. Respecter la norme, si on peut, au sens de Durkheim, l'organisation sociale ici n'apparaît pas du tout comme étant relative au fait que des individus divers, voire un par un, ou en fonction des milieux dans lesquels ils vivent, ou de l'instruction, de l'éducation qu'ils ont connue, que les individus un par un intériorisent la norme, intériorisent une contrainte, enfin une norme qui s'exerce sur eux comme une contrainte, c'est-à-dire comme une prohibition, comme une obligation de faire ou comme une interdiction de ne pas faire. Le processus d'interaction dont John Dewey parle interdit totalement que justement la norme soit autoritaire, c'est-à-dire qu'elle soit externe à la situation qu'elle régule. Au contraire, bon, il en va comme d'un jeu, et c'est par exemple dans Démocratie et Éducation qu'il est beaucoup question de jeu, un peu aussi d'ailleurs comme chez Mill, le jeu apparaît comme justement une métaphore ou en même temps un moyen d'entrer dans les phénomènes de socialisation. Chez Mead, par exemple, la différence entre play and game est quelque chose de tout à fait intéressant. Bon, en tout cas, le jeu de ballon a ceci, et là, il parle de ce qui se passe dans la cour de l'école. Et le jeu de ballon, ici, n'est pas, par exemple, un jeu de, je sais pas, un jeu de foot ou de rugby. Ce n'est pas qu'il obéit, c'est qu'il est un ensemble de règles que les participants donc connaissent et qu'ils respectent, non pas parce qu'elles pèsent sur eux comme une contrainte, mais parce que c'est la condition de leur participation au jeu. Un jeu sans participants n'existe pas, mais des participants sans règles ne peuvent pas jouer non plus. Donc on voit que le participant a un rapport à la règle qui est à la règle du jeu. Le participant a un rapport à la règle qui est fondé sur le fait qu'il appartient à la situation, et donc il a un comportement ou une conduite plus exactement qui contribue en liaison avec la conduite des autres à faire advenir quelque chose qu'il valorise. C'est-à-dire ici un amusement ou un jeu. Cette harmonisation en quelque sorte des activités, comme les rameurs peut-être. On peut imaginer cette harmonisation, donc cette coordination plus exactement, cette coordination des activités comme une espèce de modèle qui va ensuite servir à John Dewey. Celui de l'association volontaire. C'est un modèle parce que la forme d'union sociale qui provient de ce type de petite société, qui provient de ce type d'interaction qui est pleinement désirée par les participants et qui trouve pleinement sa réalisation du fait que les moyens de sa réalisation sont présents dans cette situation. Ce type d'association apparaît comme comme fondamental pour la vie démocratique. Il est fondamental, Dewey va y revenir de plus en plus de plus en plus régulièrement à partir des années 1933, et l'accent va devenir pressant sur la valeur de l'association volontaire dans les années 37, 38, 39, au fur et à mesure que les totalitarismes viendront à naître et à se développer. Donc c'est un modèle, je disais, d'union qui est fondamental, je dirais, qui est quelque chose sur quoi il y aurait beaucoup à dire, dans la mesure où c'est une forme d'accord qui ne dépend pas du tout de l'identité des participants. Or, toutes les autres formes d'accord que vous pouvez rencontrer dans les traditions philosophiques, politiques, voire même sociologiques, hormis une famille de sociologues, sont des modes d'union, si vous voulez, fondés sur l'identité des participants. L'union libérale, si vous voulez, je l'indique simplement parce que ça me semble intéressant lorsqu'on réfléchit justement à la question des normes. L'union libérale est une union qui est fondée sur le fait que les participants, en quelque sorte, de cette union, non pas pensent tous la même chose, mais en tout cas, ont tous accepté, en quelque sorte, de faire prévaloir des facultés qu'ils ont, leur nature, en quelque sorte, c'est-à-dire des facultés qu'ils ont en commun avec tous les autres hommes. Et les institutions de la tolérance, par exemple, sont fondées sur le fait que si la personne privée doit rester dans l'ombre, par contre, la personne publique étant celle qui raisonne, celle qui discute, celle qui trouve les meilleurs arguments au cours d'une discussion, celle qui vit sous la conduite de la raison, celle qui fait un usage public de sa raison, pour parler comme citer Kant, alors celle-là peut, disons, participer aux institutions de la citoyenneté. Mais la condition de libéral, si vous voulez, de l'accès à la citoyenneté est la même T des facultés requises pour entrer dans le cercle de la citoyenneté, ce qui explique que, malgré les institutions de la tolérance, beaucoup de gens aient été exclus de la citoyenneté jusqu'à très récemment, jusqu'en 1945 pour les femmes en France, par exemple. En tout cas, par contre, l'union, je dirais, organique, organiciste ou communautarienne est une union qui est fondée sur le fait, non pas qu'on partage une même faculté, mais qu'on partage de mêmes valeurs, qu'on partage les mêmes normes, qu'on partage la même culture et qu'on a un rapport, si vous voulez, en quelque sorte, d'allégeance. Par exemple, Taylor fait mention des horizons qui font autorité pour rendre compte du vivre ensemble communautarien. C'est un aspect, il y en a bien d'autres, mais en tout cas, donc, qui suppose cette fois que, disons, le point d'ancrage des individus dans leur contexte culturel est identique. L'accord, bon, je voulais simplement l'indiquer pour mettre en contraste, en exergue, la nouveauté, la nouveauté toujours présente du travail des réflexions de John Dewey et d'autres, mais enfin de l'actualité de l'interactionnisme comme manière d'explorer des relations entre les hommes qui soient constitutives, enfin qui aboutissent à une entente, sans que cette entente pourtant présuppose qu'on pense la même chose, qu'on veut la même chose, qu'on a les mêmes références, qu'on a la même langue, qu'on a la même culture, qu'on a la même faculté que les autres, etc., etc. Donc, finalement, l'accord que l'association volontaire rend possible est un accord qui suppose, c'est un accord qui suppose la pluralité et même la pluralité concrète, la pluralité irrépressible presque des participants à l'union. Donc ça, c'est cette autorégulation des groupes ne sera pas abandonnée dans le cadre du public, mais comme je l'ai dit, c'est plutôt même ce vers quoi les analyses de Dewey, au fur et à mesure qu'on avance dans le siècle, vont tendre de plus en plus. D'ailleurs, le dernier chapitre du public et ses problèmes commence aussi à espérer que finalement la grande communauté adviendra, mais que cette grande communauté ne pourra être fondée que sur une réémergence sous une forme ou une autre de relations en face à face, c'est-à-dire de relations qui permettent à chacun de réguler sa conduite en fonction des attentes des autres, mais en même temps d'être le participant à l'élaboration de la norme du fonctionnement du groupe auquel il prend part, ce qui est donc quelque chose de qu'on peut appeler aussi d'ailleurs la démocratie. Maintenant, mis à part ce groupe, ces associations en face à face, en quelque sorte, qui ne sont pas nécessairement en face à face, l'Internet pourrait tout à fait maintenant jouer ce genre de rôle, mais aussi mettre des gens en contact, le contact à distance étant une des modalités du contact de société moderne que Gabriel Tarn avait commencé à analyser et qui reste pleinement envisagé par John Dewey. Par contre, il y a un autre type d'association que John Dewey appelle le public. Alors, qui est une association qui devra en quelque sorte son organisation à des intermédiaires que sont les représentants du public. Alors, pour l'expliquer expliquer la différence entre ces associations de premier degré et ces associations politiques, je rappelle la définition que donne Dewey de la différence entre le public et le privé, entre le domaine des affaires publiques et le domaine des affaires privées. Alors il explique dans ce livre, il explique que privé et public ne se laissent pas distinguer suivant la nature des activités envisagées, pas plus qu'ils ne se laissent distinguer suivant, disons, le type de déterminant que les individus mettent en évidence ou en avant quand ils agissent. Ce qui est fondamental, ce qui établit une différence fondamentale, c'est un seul critère, c'est celui de la portée des activités. Lorsque les activités produisent, les activités qui sont toujours non pas collectives, mais communes, il faudra insister sur la différence entre ces termes, mais en tout cas, quand les activités, disons, conjointes, combinées, quand ces activités produisent des conséquences qui restent confinées à ceux qui sont les auteurs de ces activités, alors l'association qu'ils forment est privée. Quand, au contraire, les conséquences de ces activités débordent largement le cercle de ceux qui les performent, alors, explique Dewey, on a le commencement d'une instance, on a le commencement de ce qu'on pourrait appeler donc le public. Le public étant constitué par l'ensemble des gens qui éprouvent négativement, il faut le préciser, gravement, de manière persistante et à grande échelle finalement, qui éprouvent donc les conséquences d'activités auxquelles ils ne prennent pas part, sur lesquelles, disons, ils ne peuvent en aucun cas exercer un contrôle direct, puisqu'ils ne sont pas participants aux associations ou même parfois aux individus qui sont à l'origine de ces activités. Donc la différence entre privé et public est une différence qui est purement fonctionnelle et qui dépend entièrement du critère pragmatisme, de l'étendue des conséquences ou de la nature des conséquences. Un public est d'abord constitué de l'ensemble des gens qui sont handicapés, en quelque sorte, entravés, gênés dans la conduite de leurs affaires, en association avec d'autres ou individuellement, par le fait que, les résultats ou par l'effet que produisent des conséquences qui parfois se produisent d'activités qui parfois ont lieu de l'autre côté de la planète. On peut considérer ces analyses d'ailleurs comme une des premières théories de la globalisation, il y a eu d'autres auteurs auparavant, mais en tout cas, ce qui va beaucoup frapper les observateurs, c'est surtout la Première Guerre mondiale et la Première Guerre qui est justement mondiale, mais en même temps qui n'arrive pas seule et qui est accompagnée de l'essor de toutes sortes d'activités, les unes commerciales, les autres économiques, d'autres encore qui sont industrielles, dont le siège est situé à l'opposé de la planète, mais qui n'en laisse pas moins d'avoir des conséquences sur le comportement, sur les activités individuelles, et ce jusque dans les petites localités, jusque chez les paysans, les agriculteurs qui continuent d'exister dans la famille, dans les congrégations religieuses, etc., etc. Donc le public existe d'abord d'une manière passive. Ce qu'il faut noter, c'est que les membres d'un public ne forment en rien une société. Ils n'ont pas de point commun. Autrement dit, ils n'ont Enfin, il n'y a pas de règle du jeu pour un public en tant qu'il est constitué par des personnes qui sont affectées par les conséquences d'activités menées par d'autres. Ce public est donc complètement dispersé, il est fantomatique dans les termes de Lippmann, il est chaotique dans ceux de Dewey. C'est un public qui n'existe pas en réalité, qui manque totalement d'une capacité d'auto-organisation, d'une capacité une capacité d'organisation politique. Donc le public étant passif, sa tâche en quelque sorte, c'est de devenir actif, c'est-à-dire d'identifier suffisamment les conditions de sa détresse en quelque sorte, les conditions de ses handicaps, les conditions de ses difficultés, pour les convertir en des moyens sur lesquels agir, c'est-à-dire identifier celles des conditions qui permettront que se coordonne une action collective et ce par quoi le public pourra devenir politiquement significatif et politiquement actif. On voit que la réglementation ou la régulation des activités des activités dont les conséquences indirectes affectent gravement des gens qui ne sont pas les auteurs de ces activités, on voit que cette régulation est différente de celle qui régit le comportement, si vous voulez, des groupes privés. L'État, en fait, apparaît à partir du moment où le public désigne, là c'est dans le chapitre 2, l'État apparaît à partir du moment où le public désigne des mandataires, qui peuvent être d'ailleurs les citoyens, qui peuvent être aussi des représentants de l'exécutif, de la législation, etc. Donc le public désigne des mandataires qui représentent ses intérêts et qui agissent de telle manière que ses intérêts seront satisfaits. Cette action en faveur de l'intérêt public suppose d'une part le contrôle, cette fois, des conséquences des activités qui sont inhibitrices de potentialité de développement individuel chez un grand nombre de gens, mais suppose également la réglementation qui sera adoptée soit suivie de conséquences telles que il en proviendra la reprise du cours d'activité des membres du public, c'est-à-dire la reprise d'activité de ceux qui étaient empêchés d'activité, en quelque sorte, c'est-à-dire rendus passifs par les effets de l'interdépendance, une interdépendance accrue. Importe ici, pour terminer, ce qui importe, c'est que la désignation des mandataires, la désignation des officiers du public est un mécanisme, si vous voulez, qu'on peut proprement politique, qu'on peut pour l'instant laisser de côté. En revanche, dans la mesure où les mandataires ne peuvent que représenter un intérêt public, il est important de discuter de la question de savoir comment définir cet intérêt. Comment faire émerger cet intérêt ? Comme je l'avais signalé, les membres d'un public ne forment une société que dans la mesure où ils découvrent ensemble un intérêt de réglementation politique, c'est-à-dire un intérêt de régulation des conséquences d'activités menées par d'autres dont qui leur sont défavorables. Et justement, John Dewey insiste sempiternellement sur le fait qu'il ne propose que des solutions intellectuelles. C'est-à-dire que les problèmes qu'il adresse sont des problèmes de de connaissances, ou plus exactement, terme qu'il emploie souvent, sont des problèmes d'intelligence. Le public ne peut pas se procurer à lui-même spontanément la connaissance des conditions qui l'ont fait naître. Et pourtant, telle est la condition, si vous voulez, à laquelle un public pourra se doter d'une organisation politique efficace, c'est-à-dire, il est absolument requis que les membres, si dispersés qu'ils soient, d'un public, parviennent à identifier des hypothèses de réglementation possibles pour, d'une part, qu'ils s'unissent et forment ensuite des groupes influents, et pour ensuite qu'ils pointent la direction dans laquelle devra s'effectuer l'action publique ou l'action politique. On arrive ici à une troisième forme de contrôle qui, je ne fais que l'indiquer parce que ça me ferait déborder mon temps, une troisième forme de contrôle qui est le contrôle des faits par l'expérience. Le contrôle des faits, pardon.
Vous pouvez prendre le temps d'exposer s'il reste un peu.
Donc le contrôle des faits par l'expérience est un thème que Dewey a développé aussi bien dans tous ses textes théoriques, mais notamment dans ce texte qui s'appelle La théorie de l'enquête, la logique, mais aussi dans La quête de la certitude et aussi dans des textes pédagogiques comme Comment nous pensons ou ces articles qui sont des contributions à une encyclopédie de l'éducation aussi sont extrêmement éclairants sur cette théorie de l'enquête qui, par contre, quant à elle, est d'une stabilité assez remarquable pendant les 50 ou 60 ans que Dewey écrit, ce qui n'est pas tout à fait le cas de sa pensée politique, ni même d'ailleurs de sa pensée éthique. Donc, quel type de contrôle social peut-on imaginer dans le cadre d'une société marquée par une interdépendance croissante et par une complexification croissante donc des réseaux d'influence entre individus, médiés en plus par des organisations impersonnelles, par des grosses machineries. L'enjeu permanent des textes de Dewey sur la politique est toujours de signaler que la méthode qui mène à des résultats cumulatifs et validables dans les sciences physiques, cette méthode devrait être adoptée, devrait être développée dans le domaine des affaires humaines, c'est-à-dire dans le domaine des sciences sociales. Je vais arrêter peut-être maintenant, quitte à répondre à des questions sur cet aspect après, parce que ça me fait m'engager dans un paragraphe un peu long. Voilà, ben je vous remercie, je vous prie de m'excuser.